Alléluia. Que Dieu soit béni pour ces moments qu'il nous permet de partager ensemble. Nous avons chanté, vous avez chanté, c'est auprès de toi que je veux grandir. Et le thème que je voudrais partager avec vous ce soir est le suivant, grandir dans la foi. Alors je ne sais pas si on se considère peut-être arrivé au summum de la foi, la perfection de la foi, telle que le Seigneur voudrait nous engager les uns et les autres. Mais je pense que, quel que soit le niveau de notre foi, où nous en sommes arrivés avec le Seigneur, je crois que vous serez tous d'accord que nous pouvons faire un pas de plus, que nous pouvons encore aller plus loin. En tout cas, je pense que c'est le désir de son cœur. En introduction, je voudrais rappeler un principe fondamental dans la vie spirituelle, c'est que l'on ne peut pas s'approcher de Dieu autrement que par la foi. Un verset de l'Écriture est clair, je vous le cite, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » C'est net, clair, précis. Je vous ai cité Hébreux 11, verset 6. Ce principe est valable pour s'approcher de Dieu, mais aussi pour continuer à s'approcher de Dieu. C'est bien de lui être agréable peut-être une fois lorsque nous nous sommes approchés de lui par la foi, mais c'est surtout important tout au long de notre vie de rester dans une position qui lui reste agréable. Et ce qui reste agréable à Dieu, c'est que non seulement nous ayons commencé avec la foi, mais que tout au long de notre vie, jusqu'à la fin de notre vie, nous soyons dans cette attitude, dans cette position de foi. Dans ce cantique que nous avons chanté tout à l'heure, il a été rappelé souvent dans le refrain, « J'entrerai dans le saint lieu, couvert par sa justice, couvert par le sang de Jésus-Christ. » Et c'est uniquement par ce moyen-là que ce soir encore, nous pouvons être trouvés agréables devant Dieu. Et je voudrais lire ce premier texte avec vous dans Colossiens au chapitre 1er. Dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, le verset 21 au verset 23. Prenez patience, nous lirons plusieurs textes ensemble, je vous en citerai certains, mais c'est tellement bien de pouvoir quand même regarder attentivement ce que la parole de Dieu nous enseigne. Colossiens, chapitre 1er, verset 21, « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensible et sans reproche, verset 23, si, du moins, vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. » Ceci, du moins, ce n'est pas facultatif, c'est l'importance pour nous, non seulement pour être devenu favorable à Dieu, agréable à Dieu, nous avons dû exercer la foi, seul moyen de lui plaire, mais nous devons rester tout au long de notre vie, jusqu'au terme de notre pèlerinage ici-bas, fondés, enracinés, inébranlables dans la foi. Or voilà, chaque croyant honnête reconnaîtra qu'il y a comme deux courants dans notre vie. Un courant de foi, et malheureusement, plus ou moins important, un courant de doute. Et nous avons parfois à lutter. Le terme combat n'est peut-être pas tout à fait juste dans ce cadre-là, mais il y a quand même une lutte parfois au-dedans de nous. La foi, notre vie, elle est peut-être un peu trop souvent, vous savez, comme ces montagnes russes, elle peine un petit peu à monter, à gravir un certain niveau, et très rapidement, elle redescend. Et je crois que notre désir, en tout cas si nous sommes là ce soir, et c'était aussi cette parole dans ce chant, c'est que nous puissions non seulement avoir bien démarré dans la foi, mais que nous puissions rester constants, fidèles et inébranlables. En tout cas, c'est ce que la parole de Dieu nous encourage à vivre. Et je voudrais lire un texte avec vous dans Marc au chapitre 9, au verset 15, ce texte nous montre comment, justement, Il peut y avoir cette dualité, on peut l'appeler ainsi dans notre cœur, un courant de foi, un courant de doute qui peut être là. Un texte que nous connaissons bien dans Marc au chapitre 9, verset 15. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. » Verset 19 « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi. » On lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba, il se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondit-il. » Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Et regardez le verset 24, « Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris, en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort, mais Jésus l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Amen. Ce verset que j'ai cité plus particulièrement, verset 24, « Je crois, courant de foi, de spontanéité, de croire véritablement dans la puissance de Jésus, mais aussi courant de doute, vient au secours de notre incrédulité. » Et ce qui plaît à Dieu, je crois, c'est notre honnêteté. Quelle sincérité dans le cœur de cet homme qui à la fois affirme sa foi, tout en reconnaissant son incrédulité. N'y a-t-il pas aussi un petit peu cette dualité, parfois, dans nos vies et dans notre cœur ? Jésus, en diverses occasions, a pu définir l'attitude de certains par la valeur de leur foi. « Gens de peu de foi », a-t-il dit dans certaines circonstances. Mais dans d'autres circonstances, il a pu dire aussi « Quelle grande foi ». Paul, en s'adressant aux Thessaloniciens, dira combien il se réjouit parce que leur foi, elle fait de grands progrès. On peut se peut-être poser la question ce soir, que pourrait-il dire de nous, de notre foi ? Une chose est sûre, c'est que non seulement nous pouvons, mais aussi nous devons tous grandir dans la foi. Et même si quelqu'un était arrivé ce soir au summum de la foi, la perfection de la foi, telle qu'on la définira tout à l'heure ensemble, peu importe, tout cela doit nous encourager véritablement à vivre constamment, fondé, enraciné dans cette foi, à grandir. Et je voudrais lire un texte, toujours dans cette introduction, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 4. Et dans ce texte, je vous demanderai, si vous avez la possibilité de laisser... On y reviendra parce que ça va être le texte qui va nous servir de base pour voir quatre étapes dans la croissance de notre foi. Romains chapitre 4, versets 18 à 21, c'est un texte que nous connaissons bien, que l'on cite souvent et qui, je pense, ce soir peut encore nous encourager dans la foi les uns et les autres. Romains chapitre 4, versets 18 à 21, il est question de Abraham qui est cité plus haut comme le père des croyants, un modèle pour nous de foi. Et au verset 18, il est dit ceci, « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Bien sûr, je vous encourage à relire ces versets, surtout si c'est un texte que vous n'avez pas lu depuis longtemps ou peut-être que vous n'avez jamais lu, pour le resituer dans un contexte particulier, puisque l'apôtre Paul est en train d'expliquer méthodiquement, au travers de ces quatre premiers chapitres de l'épître aux Romains, comment, en définitive, tous les hommes sont égaux, ils sont tous pécheurs, mais que Dieu a voulu, a permis qu'au travers de Jésus-Christ, quiconque avait la foi soit justifié devant lui. C'est un mystère, c'est quelque chose que les hommes ont du mal peut-être à saisir, à comprendre. En tout cas, c'est tel que Dieu l'a révélé au travers de l'apôtre Paul et au travers des Saintes Écritures. Et l'apôtre Paul va, au travers de ce chapitre 4, prendre deux exemples, David et Abraham, pour montrer aussi que dans l'ancienne alliance, il n'y a pas une opposition entre l'ancienne et la nouvelle alliance, mais que Abraham lui-même avait été justifié devant Dieu par la foi qu'il avait exercée en son Dieu. Je ne m'étends pas plus sur ce domaine-là, mais vous encouragez véritablement à relire tout ce contexte particulier. Le premier point que l'on peut partager sur ce thème de grandir dans la foi, c'est de dire que le fondement, c'est la parole du Christ. La foi, elle commence à s'établir sur la parole de Dieu. Il est dit, nous l'avons lu ensemble, espérant au verset 18, « Contre toute espérance, il crut, il devint ainsi le père d'une grande nation, selon, notez bien ceci, selon ce qui lui avait été dit. » La foi que Abraham à exercer est une foi qui a été fondée sur la parole de Dieu. Vous me direz, c'est la base. Mais c'est important d'y revenir. Car pour certains, il est impossible de grandir dans la foi, tout simplement, pour la simple et bonne raison, qu'ils n'ont pas commencé avec Dieu la foi véritable. Il a été fait mention dimanche matin, notamment de tous ceux qui, dans les églises, sont persuadés de plein de choses, peut-être même persuadés de leur salut, mais qui n'ont jamais posé le fondement de leur foi sur la parole de Dieu. Je sais que ça, c'est un petit peu basique ce que je veux vous dire, mais je pense que c'est important, peut-être quelqu'un a besoin de l'entendre ce soir. La foi, ce n'est pas une simple croyance. L'apôtre Jacques ira même dire que les démons croient en Dieu. Et il tremble. La foi, ce n'est pas une force de persuasion. La foi n'a rien à voir avec le domaine des émotions, des désirs, même les plus nobles, n'a absolument rien à voir avec les rites religieux. La foi, ça n'a rien de magique. Ça ne tombe pas sur quelqu'un plutôt qu'un autre. Il n'y a pas un pouvoir particulier. La foi, elle n'est pas réservée à certains plutôt que d'autres. La foi, on va le lire ensemble dans Romains 10, verset 17, juste un petit peu plus loin. Gardez un doigt, si vous pouvez, dans Romains 4. La foi, qu'est-ce que nous dit l'Écriture au verset 17 ? Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans une autre version, il dit que la foi, elle naît du message de l'Évangile, au contact de la parole de Christ. Tout mouvement, si beau soit-il, toutes nos convictions les plus fortes, tous les écrits que l'on pourrait rédiger nous-mêmes sur nos expériences, tout cela ne peut pas fonder et enraciner la foi de quelqu'un. Même notre modèle et notre exemple, il peut susciter la foi et l'envie de connaître le Seigneur, et cela doit le faire, et que notre Église puisse permettre que la foi soit suscitée dans les cœurs, mais nous ne pouvons pas fonder notre foi que sur ces choses-là. Nous devons fonder notre foi sur la parole de Dieu. La Bible est claire, tout a été créé par la parole de Dieu. Il est dit dès les premiers versets, Dieu, au commencement, créa les cieux et la terre. Et vous savez comment Dieu a créé les cieux et la terre? C'est le psalmiste qui le dit, je vous le cite. « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Toute l'armée, et toute leur armée, pardon, par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans les réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive. Il l'ordonne, et elle existe. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est par sa parole que Dieu a créé toute chose, et c'est encore par sa parole qu'il accomplit le salut merveilleux, qu'il guérit, qu'il pardonne, qu'il nous visite encore ce soir. Pourquoi ? Parce que cette parole, elle a été faite chair en la personne de Jésus-Christ. C'est Jean au chapitre 1er qui nous le rappelle. Je vous ai cité peut-être un peu rapidement le psaume 33, versets 6 à 9, pour ceux qui prennent des notes. C'est sa parole qui a une puissance créatrice. Je voudrais insister ce soir sur un point particulier. Oui, nous devons être encouragés à grandir dans la foi, mais la foi en elle-même, elle n'est rien, elle n'est qu'un support qui nous relie à Dieu. La foi, elle n'est pas la puissance, mais c'est Dieu qui est la puissance. Vous vous rappelez la foi de ce centenier qui s'est approché du Seigneur Jésus pour la délivrance de son serviteur? C'est dans ce cadre-là que Dieu a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et cet homme a compris l'autorité qu'il y avait dans la personne de Jésus-Christ. Il a reconnu, peut-être certainement un des premiers, qui a reconnu qu'en Jésus-Christ, il y avait véritablement Dieu présent sur la terre. Il a reconnu l'autorité de sa parole. Et il a aussi surtout reconnu la nécessité d'obéir. Si vous revenez dans ce texte, dans Matthieu chapitre 8, ne le cherchons pas, mais vous le relirez chez vous. Mais il donne cet exemple que lui aussi, il est soumis à des supérieurs, il a des serviteurs sous ses ordres, etc. Et il a compris aussi la nécessité de l'obéissance. Regardez toujours dans Romains 10, verset 17. Le verset précédent, le verset 16, il est dit ceci. « Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Tous n'ont pas, ils n'ont pas obéi. » Et nous ne comprenons pas assez suffisamment que la foi, avant tout, c'est une question d'obéissance. Et la foi, elle consiste à se placer sous l'autorité de Dieu. C'était la démarche de ce centenier. La foi consiste à se placer sous l'autorité de Dieu et de lui obéir. C'est ça la foi, le véritable fondement de la foi. Je sais que c'est un peu basique, mais tellement important, parce que si nous voulons grandir dans la foi, il faut avoir un fondement solide, bien avoir fondé notre foi dans la parole de Dieu. Méditez cet exemple de ce centenier, c'est remarquable de voir comment cet homme, étranger, entre guillemets, à la grâce de Dieu, comment lui avait compris l'autorité qui émanait de la personne de Christ, la puissance qui se dégageait de sa parole. Dit seulement un mot. Pierre, un jour, a été encouragé à jeter les filets. Et vous savez ce que Pierre a dit? On a travaillé toute la nuit, on est fatigué, on n'a rien ramassé. Mais Pierre a dit ceci, sur ta parole. Et dans une autre circonstance, on va la lire ensemble dans Matthieu chapitre 14, au verset 22. Matthieu 14, verset 22. Pierre nous fait la démonstration qu'il ne veut que pour seul fondement à sa foi la parole qui vient de Christ. Et il doit en être de même pour chacun de nous. Matthieu 14, verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. On relit ces textes, je ne prends que certaines parties, mais c'est bon, ça nous encourage quand même de revoir comment le Seigneur étend la puissance et comment il est disposé. L'attitude de Pierre, même si Jésus a été obligé de qualifier ce niveau de foi comme peu de foi, a été quand même quelque chose d'extraordinaire. De vouloir fonder une action qui peut sembler quel était le projet de Dieu là-dedans. Mais je crois que Pierre a vu quelque chose de spectaculaire dans ce que Jésus marchait sur l'eau. Et il a cru que, quelque part dans son cœur, si Jésus avait cette capacité de le faire, cette foi pouvait se transposer à lui. Quelle audace de la foi, quelque part, il y avait dans son cœur. Mais cette attitude, en tout cas, elle fonde quelque chose de fondamental pour nous, c'est qu'il veut une parole de Christ. Pierre, il est habitué à la loi de la pesanteur. Il sait que dès qu'il va passer le pied, il coule comme une pierre. Pas voulu faire un jeu de mots. Mais Pierre sait qu'il peut trouver un fondement plus solide que s'il y avait un rocher, un îlot au milieu de l'eau. La parole de Christ, ordonne que j'aille vers toi. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller ce soir. En tout cas, grandir dans la foi, c'est premièrement avoir pour fondement la parole du Christ. Et la deuxième chose, deuxième niveau un petit peu, deuxième étape de la foi, on le trouve justement dans ce même texte, au verset 30, vous l'avez vu, « Voyant que le vent était fort, il eut peur. » Et le deuxième niveau que je voudrais partager avec vous, c'est faire abstraction des circonstances. Il est dit dans Romains au chapitre 4, dans ce texte que nous méditons, « Sans faiblir dans la foi » au verset 19, « Il ne considéra point que son corps était déjà usé. » Lorsque nous avons ce fondement solide, nous serons tôt ou tard, confronté à la contre-attaque, on pourrait l'appeler ainsi, du monde visible. Pierre, à un moment donné, il a eu peur. Et cette deuxième étape, c'est malheureusement l'hécatombe, on doit l'appeler ainsi, pour tous ceux qui ont bien commencé dans la foi. Combien ce soir ne sont pas au milieu de nous, se sont éloignés de Dieu, parce qu'ils se sont arrêtés à cet endroit, faire abstraction des circonstances. Il est vrai que souvent, la réalité que nous vivons est en grand décalage avec la promesse que Dieu a attachée à notre vie, que nous tenons fermement dans notre cœur. Ça peut être pour le travail, ça peut être pour nos études, ça peut être pour le choix d'un conjoint, ça peut être pour un appel de Dieu pour le servir, ça peut être dans le service même que nous vivons dans l'Église. C'est vrai que parfois la réalité semble tellement décalée par rapport à la promesse que Dieu a attachée à notre vie. Mais je voudrais dire ce soir, qu'importe le temps de la promesse, qu'importe les circonstances, notre foi, elle va grandir. Elle s'affermira véritablement lorsqu'elle fera totalement abstraction du monde visible, mais qui met trop souvent notre foi au défi. Mais nous avons besoin, Abraham a eu cette attitude, il ne considéra point que son corps était déjà usé. On le verra après, mais il était vraiment en âge à ce moment-là de ne plus procréer. C'était impossible. Mais Abraham n'a pas regardé à cela. Et nous sommes, nous aussi, encouragés pour grandir dans la foi, à ne pas nous laisser limiter, surtout arrêter, mais au contraire à continuer, malgré les circonstances, malgré le temps que Dieu parfois, malgré peut-être aussi les moyens que Dieu va utiliser pour accomplir sa promesse, nous ne voulons pas faillir dans la foi. Quand la promesse a été faite à Abraham, il avait quel âge ? 75 ans. On lit tout cela dans Genèse chapitre 12 jusqu'au chapitre 16. Je ne veux pas peut-être trop alourdir les lectures ce soir. Mais il était encore à cet âge-là, lorsque Dieu lui a fait la promesse d'une descendance, il était en âge de procréer. Et même une dizaine d'années plus tard, lorsque Dieu renouvellera toutes ses promesses, lorsque nous voyons que Abraham procrée, puisque dans son erreur, dans quelque chose qui est difficile peut-être et sur lequel je ne m'étends pas ce soir, il va un petit peu essayer de précipiter un peu la promesse de Dieu en allant vers Agar et la naissance de Ismaël. Nous voyons bien que là, Abraham était en âge de procréer. Et lorsque Dieu a attaché cette promesse, c'était, on va dire, humainement réalisable. Mais dans ce verset que nous avons lu dans Romains chapitre 4 et tous ces versets, il est fait référence à l'époque où Abraham avait presque 100 ans. Il avait 99 ans quand Dieu a renouvelé cette promesse. Il était en incapacité d'avoir des enfants ainsi que son épouse. Désormais, à ce niveau-là, il fallait, sans un miracle, la promesse de Dieu ne pouvait pas s'accomplir. Qu'est-ce qu'a fait Abraham ? Il a cru. Il a cru. Il a continué, nous l'avons lu, espérant. Il crut, selon ce qui lui a été, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps, était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Quelle foi ! Dans ces promesses que Dieu a attachées à notre vie, dans ce qu'il nous a permis d'entrevoir, et j'insiste bien, selon sa parole, non pas selon nos désirs. Vous savez, on peut avoir des désirs très nobles. Être pasteur, servir Dieu, partir en mission, ce sont des désirs nobles de notre cœur. Mais nous ne devons pas fonder notre foi sur ces désirs-là, mais sur une parole qui vient de Dieu. Il peut y avoir ce désir suscité dans nos cœurs, mais nous devons nous attacher, comme Pierre l'a fait pour avancer, nous attacher à une parole personnelle dans notre vie et que nous pouvons trouver au travers des Saintes Écritures, mais aussi de différentes manières. C'est important de le rappeler. Abraham a cru à la promesse et il ne s'est pas laissé embranler par les circonstances du moment. C'est important. Et cela nous amène au troisième point. Eh bien, c'est de considérer les choses célestes. Dans ce troisième niveau, Abraham, après avoir, j'insiste, volontairement fait abstraction des choses terrestres, Abraham va fixer les yeux sur les réalités célestes. Le rappel incessant de la promesse que Dieu lui avait faite. Il y a dans ce verset 20, je voudrais le relire avec vous, Romains chapitre 4, verset 20, il est dit ceci, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. » Il fut fortifié par la foi. Il y a quelque chose d'un petit peu, quand on essaye de méditer ce verset, je vais vous le relire dans la transcription parole vivante. S'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute, puisant sa force dans la foi, il fit honneur à Dieu. Puisant sa force dans la foi. Il y a quelque chose quand même d'un petit peu mystérieux. Alors je l'ai déjà dit, je réinsiste à ce niveau-là. C'est pas la foi qui est quelque chose. C'est pas la foi qui est une puissance. C'est l'objet de notre foi. Jésus nous a encouragés. Ayez foi en Dieu. C'est Dieu qui est la puissance. Ce n'est pas notre foi. Mais il y a quelque chose de particulier dans ce verset. Et cela me fait penser que dans ces moments où nous arrêtons d'avoir les yeux vers le bas, mais où nous les levons vers le haut, lorsque nous arrêtons finalement et que nous faisons abstraction de toutes les circonstances et de toutes les choses terrestres et visibles qui voudraient être un obstacle à notre foi, dans ce troisième stade, lorsque nous levons les yeux vers le haut, nous repassons les promesses que le Seigneur nous a faites. Ruminer les promesses fortifie notre foi et fortifie notre cœur. Notre corps entier se trouve fortifié. Vous savez, tout au long de notre vie de croyant, nous aurons bien des situations susceptibles de nous décourager. Bien souvent. Et malheureusement, on voit que ce n'est pas difficile de se décourager, et même de décourager les autres. Il nous faut lever les yeux vers le haut, vers le Seigneur Jésus-Christ. Arrêtez de les avoir fixés vers le bas. Vous savez, quand on commence à avoir des idées noires, penser les choses d'une manière négative, à ce moment-là, on devient tout triste, cafardeux, des fois on ne peut pas dormir la nuit et tout ça. Mais à l'inverse, je pense que lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, comme cela a été plusieurs fois rappelé ce soir, lorsque nous sommes véritablement dans cette attitude de chercher le cœur du Seigneur, rappelez-vous ce qui est écrit dans la parole, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque nous avons une véritable attitude qui cherche son cœur avant toute autre chose, je crois qu'il y a un miracle qui se produit dans notre cœur. La foi que nous exerçons, elle nous fortifie, puisant sa force dans la foi. C'est un mystère pour moi, c'est quelque chose que je ne pourrais pas vous l'expliquer. Mais lorsque nous avons cette attitude qui plaît à Dieu, qui fait honneur à Dieu, il est écrit, c'est la fin de ce verset qui dit, hein, il rend gloire à Dieu, cette attitude qui l'honore, il se passe un miracle, cela nous fortifie. Dieu agit dans notre être intérieur, dans le rappel sans cesse de la promesse de Dieu. Abraham regarde maintenant vers le haut, et non plus vers le bas. On pourrait dire que les muscles de sa foi se fortifient. Lui qui n'a pas permis aux apparences naturelles de diminuer sa foi, le voici puissamment fortifié dans cette foi par la contemplation des promesses que Dieu a attachées à sa vie, au point en définitive que maintenant, aucune impossibilité ne l'ébranle. La seule chose qui est impossible à ce moment-là, nous le voyons au verset 21, c'est que Dieu mente. C'est la seule chose qui est impossible. Verset 21, il est écrit, il avait la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Nous aussi, nous sommes encouragés à grandir dans la foi, donc à vraiment considérer et lever les yeux vers le haut pour nous rappeler, pour puiser en tout cas dans ses promesses la force nécessaire. Le quatrième niveau, je dirais pratiquement la perfection de la foi, nous l'avons dans ce verset 21. Et j'espère que beaucoup d'entre nous, nous pouvons, pour peut-être sur certaines promesses en tout cas, et je pense au salut de notre âme, nous en sommes arrivés à ce stade d'avoir une pleine conviction. Vous vous rendez compte? Une pleine, ayant la pleine conviction. Maintenant, Abraham, il a cette conviction au fond de lui-même que l'accomplissement de la promesse, elle lui appartient déjà. Ça reste encore du domaine de l'invisible. Mais Abraham, il la touche déjà, cette promesse. Elle est encore dans l'invisible, mais il est persuadé, il a cette pleine assurance, pleine conviction qu'elle sera manifestée au temps de Dieu dans le monde visible, aussi certainement, dirais-je, que le jour succède à la nuit. Qu'en est-il pour nous, mes frères et sœurs? Voici ce que déclare l'auteur de l'Épître aux Hébreux, je voudrais le lire avec vous dans Hébreux chapitre 11, d'un verset que nous citons comme définition de la foi. On pourrait le lire ensemble, Hébreux chapitre 11, c'est approprié, un peu une définition de la foi, mais il faut absolument le relier avec Romains 10, 17, comme nous en avons parlé tout à l'heure. Voici ce que déclare l'auteur de l'Épître aux Hébreux. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je fais une petite parenthèse. Ce mot espérer est parfois mal compris, et il faut le ramener aux réalités des promesses que Dieu a attachées à notre vie. Ce n'est pas quelque chose que j'ai envie, que je désire. C'est fondé sur ce que Dieu a dit, sur sa parole. Insistons bien sur cela. Hein. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Abraham, il en est à ce domaine-là. Il a la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Dans la transcription Parole vivante, il est dit ceci, qu'est-ce que la foi ? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est absolument être certain de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Cette pleine conviction dans le cœur d'Abraham, nous le voyons très clairement dans une situation particulière où Dieu va mettre Abraham à l'épreuve après la naissance d'Isaac. Vous connaissez ce texte, hein ? Vous l'avez déjà lu ? Genèse 22. On ne va pas le relire ensemble ce soir, juste vous rappeler que Dieu a demandé à Abraham de prendre son fils Isaac, son unique, celui qu'il aimait, et de l'offrir en sacrifice. Abraham a dit, il est parti avec ses serviteurs, vous savez comment Abraham, c'est extraordinaire, a obéi, Abraham dira ceci à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Dans Genèse chapitre 22, verset 5, et combien je vous encourage à relire et à reméditer ce chapitre. Juste citer ce verset, pourquoi ? Parce que Abraham est tellement assuré de la promesse faite par Dieu d'une postérité en Isaac, qu'il savait que même en obéissant à la parole de Dieu, même en égorgeant son fils, Dieu le ressusciterait. Et c'est exactement le commentaire, si vous êtes toujours dans Hébreux 11, au verset 17, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci, « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration, amen, qui était effectivement la préfiguration de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ. Sa pleine conviction se manifeste dans ce temps-là, dans une parfaite obéissance. Il faut rappeler ce que nous avons dit tout à l'heure, la foi est liée à l'obéissance à la parole de Dieu. Elle a pour fondement la parole qui vient de Dieu. Ce centenier, quand il s'est approché, il avait cette attitude de se soumettre et d'obéir à ce que Dieu lui dirait. Jésus lui a dit, va, va. C'est dans une parfaite obéissance à la parole qui venait de Dieu, même qui apparaît contradictoire à la promesse que Dieu avait attachée en Isaac. Abraham, c'est extraordinaire. Tenez toujours cette promesse de Dieu dans ses mains. Jamais il l'a lâchée. Nous reviendrons auprès de vous, avait-il dit à ses serviteurs. Et ce niveau de foi, Jacques le qualifiera de parfait. Jacques, lorsqu'il voudra expliquer que la foi sans les œuvres, encore un domaine un peu complexe, mais il dira, la foi, elle agissait avec ses œuvres, et par les œuvres, la foi, elle fut rendue parfaite. La pleine conviction, c'est de vivre, c'est d'agir, c'est peut-être d'accomplir des œuvres qui sont en pleine adéquation avec la promesse que Dieu a attachée dans notre vie. En tout cas, c'est ce niveau-là, en tout cas, que la foi d'Abraham a atteint. Et je pense que même si pour nous, peut-être dans certaines situations, cela amène un niveau assez élevé, cela n'est pas pour nous décourager, mais au contraire, pour que nous puissions grandir et progresser dans la foi. Je fais juste une parenthèse, il est fondamental que pour le domaine de notre salut, le domaine le plus important de notre vie ici-bas sur la terre, le salut de notre âme, il est important que nous ayons aussi ce niveau de pleine conviction. Comment il commence ? La foi pour le salut de notre âme, elle est fondée sur la parole de Dieu, pas autre chose. Celui qui croit au Fils a la vie. Si vous fondez votre foi, vous pouvez être assuré, oui, du salut de votre âme. Ensuite, vous faites abstraction du monde visible, parce que finalement, nous sommes toujours attachés aux choses de la terre. Mais nous regardons là-haut, nous méditons ces promesses que le Seigneur, et notre foi, elle grandit, elle se fortifie, et elle doit avoir la pleine conviction que finalement, notre place, elle est là-haut. C'est comme si nous la voyions et nous l'espérons avec beaucoup d'impatience. Je voudrais conclure, il est évident que, quel que soit le niveau de notre foi, nous pouvons tous faire des progrès. C'est au moins quelque chose qui nous relie et sur lequel, en tout cas, nous pouvons être tous d'accord. Le plus important, c'est de se placer devant Dieu avec beaucoup d'honnêteté. Rappelez-vous cet homme, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il y a peut-être un peu de foi dans votre cœur, qu'importe. Venez avec honnêteté devant le Seigneur. Dieu est prêt à nous aider à grandir dans la foi. Abraham a connu ses échecs. Ismaël. Nous connaissons aussi les nôtres. Les disciples, dans bien des situations, ont été repris par le Seigneur, nous l'avons lu tout à l'heure, pour leur manque de foi. Mais prenons courage. La foi puissante, elle regarde la promesse. Elle fait abstraction du monde visible. Elle s'appuie sur Dieu seul uniquement. Elle se fortifie en Dieu et elle a la pleine conviction. Il l'a dit, il le fera. Amen. Prions le Seigneur.